Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la fin de cette édition, remettant en cause la neutralité d'État Bombeki, le gouvernement congolais a annoncé qu'il ne prendra pas part au dialogue prévu par sa fondation d'ici septembre. Le président de la République a exprimé cette position sans détour. Nous sommes samedi, lors du deuxième congrès de l'Union sacrée tenu à Kinshasa. L'armée nationale de l'Ouganda, partenaire de EFARDC, renforce sa présence à Tchabi, dans le territoire du Rumu à Nitouri. Cette opération fait suite aux récentes attaques des combattants ADF contre les populations civiles. Un geste salué par les forces vives locales. Notre invité est Olivier Ndo, le secrétaire administratif de l'Alerte congolaise pour l'environnement et les droits humains. Il nous parle de mécanismes en vue pour réduire les violences autour du parc national de Virunga afin de favoriser son rôle dans le développement des communautés locales. Encore une fois de plus, bienvenue, je suis Ronéline Tibonera à la présentation de cette édition. Commençons par la politique où l'Union sacrée de la Nation a tenu samedi 30 août 2025 son deuxième congrès extraordinaire au Centre culturel et artistique africain de Kinshasa sous la médiation de son autorité morale, à savoir Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État congolais. Parmi les innovations annoncées figurent notamment le renforcement du pouvoir du secrétariat permanent, désormais transformé en secrétariat exécutif, un organe technique administratif chargé de la gestion quotidienne de cette plateforme politique. Willy Mishiki, cadre de l'Union sacrée participant à ce deuxième congrès, nous présente les autres résolutions dans cet extrait choisi par Jude Mister Bilanda.
Parmi les résolutions importantes, il y a l'adoption de la charte et du règlement intérieur de l'Union sacrée. Désormais, tous les animateurs de l'Union sacrée sont réputés démissionnaires jusqu'à nouvel ordre. De deux, le président de la République a réaffirmé sa volonté de privilégier toujours les dialogues, mais il a dit que nous n'irons jamais au dialogue lorsque le pays est encore sous l'emprise d'une occupation étrangère. Le chef de l'État a rejeté les dialogues appelés par la fondation Thabo Mbeki puisque nous ne nous sentons pas sécurisés et nous doutons à la facilitation de M. Thabo Mbeki. Le président de la République a promis à militer pour que la paix durable soit retrouvée sur l'ensemble du territoire national. Ces travaux ont apporté des innovations, notamment le présidium sera composé de délégués de partis politiques et regroupements. Et il y a 4 élus nationaux à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais aussi de délégués désignés par la haute autorité politique de circuit le chef de l'État.
Les médias et les activistes de droits de l'homme sont appelés à éveiller la conscience de la population à travers la promotion des valeurs démocratiques, en particulier durant la période électorale. Cet appel a été lancé samedi par l'ONG Dynamique multisectorielle de communication sociale à l'occasion de la première édition de ses conférences annuelles organisées à Kinshasa. Selon les initiateurs de cette activité, la structure œuvre pour le réveil de la conscience citoyenne et l'engagement démocratique. Josué Kefebe.
Initiateur de cette conférence, Antoine Roger Boulamba explique les bien fondés de la démarche de son ONG en rapport avec la question relative à l'éveil de la conscience.
L'objectif de cette conférence est de réveiller les acteurs des médias, mais aussi les activistes des droits de l'homme qui font le travail de l'éducation civique aux droits de l'homme, parce que nous avons réalisé qu'on doit faire quand même un bilan pour voir si l'éducation civique en RDC est en train d'évoluer positivement.
D'après le coordonnateur national de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simon Sel, dans la promotion des droits humains, les médias ont un rôle à jouer, notamment informer, Dike, Lik, Lutala.
Le premier rôle est celui d'informer. Et l'information doit se baser sur l'objectivité, les faits vérifiés. Le deuxième rôle est celui d'éduquer. Parce que l'éducation va renforcer, si vous voulez, le civisme et doter les citoyens de la capacité de connaître, de défendre et de réclamer leurs droits.
Invité à prendre la parole, Jean-Michel Vondo, secrétaire exécutif du réseau d'éducation civique au Congo, a souligné pour sa part l'importance de l'éducation civique dans la lutte contre la désinformation pour apaiser les tensions liées au processus électoral.
La communauté de Banyali Tchabi salue le déploiement depuis deux jours des militaires de l'armée ougandaise UPDF au chef-lieu de cette chefferie, située aussi du territoire des Rumu en Ituri. Selon son président, la présence de l'armée ougandaise dans le cadre des opérations militaires conjointes FRDC-UPDF rassure les populations régulièrement victimes des atrocités commises par les rebelles des ADF. Ces violences ont entraîné le dépeuplement de plusieurs villages vidés de leurs habitants. Situation avec Martial Kiza Biamungu.
C'est depuis le 15 août dernier que la première attaque des ADF a été enregistrée au centre de Boussio, causant la mort de 4 personnes. Plusieurs autres attaques de ces rebelles ont été signalées dans les villages de Bukima, Bandikide et Lengisa. Jeudi et vendredi, des convois de militaires ougandais ont été aperçus à Tchabi Centre et dans plusieurs autres villages de la région. Selon Faustin Boma Banilaou, le président de la communauté Banyali Tchabi, la présence de ces militaires est un véritable ouf de soulagement pour la population qui vit la peur au ventre.
Comme les militaires ont commencé à se déployer vers les villages qui étaient touchés, il faut que la population puisse travailler en collaboration avec la force, notre force loyaliste, FRDC-UPDF qui sont sur terrain. Et il y a les éléments de la police qui nous aident aussi pour les tracts des ADF NAL.
Il demande également au FRDC de renforcer leur présence dans cette région pour permettre à la population qui avait fui de regagner leur village en cette période de la rentrée scolaire. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Nous allons à Beni, au Nord Kivu, où les préparatifs de la rentrée scolaire prévue pour ce lundi 1er septembre sur l'ensemble du territoire national sont fortement perturbés dans plusieurs villages et localités en raison de l'insécurité. Selon la société civile locale, les dernières attaques des ADF dans la commune rurale d'Oicha ainsi que dans le village de Maimoya, Beu Manyama et Katere ont provoqué les déplacements de nombreux parents, élèves et enseignants vers d'autres zones. Le vice-président de la société civile du territoire évoque une situation qui impacte directement les préparatifs de la rentrée des classes. Richard Kirimba appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour sécuriser la zone. Il est au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Par exemple, la perturbation de la population par rapport aux multiples attaques ADF, notamment dans les villages de Banoliliva, Maimoya, dans la commune de Oicha, avec un impact aussi sur la partie ouest, notamment Beu, Manyama, Katere. Et même en allant vers l'Ituri, la population n'est plus stable. Ça va perturber à rentrer à l'école. Il y a les gens qui se sont déplacés de Oicha pour Beni, Demba ou pour Beni ou ailleurs. Les enseignants sont aussi concernés par cette situation. Parce que les déplacements qui affectent la vie des parents et des enseignants, même des élèves, c'est un déplacement à double volet. Le premier est de quitter un village pour un autre, une commune pour une ville ou autre. Le deuxième palier, c'est maintenant les déplacements internes, ce qu'on appelle mouvement pendulaire. Donc vous êtes dans la même commune, dans la même cité, mais vous n'êtes pas stable, ce qui ne vous permet pas de rester dans votre confort. Vous comprenez que la préparation est en difficulté. Aux autorités de tout faire pour offrir un environnement propice pour permettre la rentrée scolaire.
Nous quittons la partie est de la République démocratique du Congo vers l'ouest où la commission diocésaine Justice et Paix CDJP Kinshasa a dénombré à travers son projet intitulé Lisanga plus de 5000 morts liés au phénomène Mobondo dans les grands Bandundu au Congo central et dans la ville-province de Kinshasa en l'espace de 2 ans. Cette structure de l'Église catholique a livré ces chiffres lors d'un échange avec les médias. Nous sommes samedi au centre Lindongue à Kinshasa. Elle propose un processus inclusif visant à restaurer la paix dans les zones affectées par les violences de la milice Mobondo. Reportage avec Blaise Mayanda.
Hormis les pertes en vies humaines, la crise liée au phénomène Mobondo a causé au cours des mêmes périodes plus de 700 000 déplacés, dont une centaine d'orphelins. Cette crise sécuritaire a également engendré une insécurité alimentaire dans les grands Bandundu ainsi que dans le plateau de Bateke où les paysans ont manqué 3 saisons culturales. Pour y remédier, la commission diocésaine Justice et Paix appelle les gouvernements à mettre en place des stratégies globales afin de lutter contre le chômage des jeunes. Cette structure de l'Église catholique recommande au ministère de l'Intérieur d'impliquer les véritables protagonistes dans la recherche des solutions à cette crise, comme l'indique Sœur Perpétue Kiesse.
Au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, de rechercher à dialoguer avec les vrais acteurs de la crise afin d'aboutir à des résolutions efficaces qui favorisent la paix sociale et les bien-vivants. ensemble durable.
Elle demande également au ministère de la Défense nationale de majorer l'effectif des forces armées de la RDC afin de leur permettre de venir à bout de ces miliciens. Éclaté depuis 2022 dans la cité de Kwamout, le phénomène Mobondo touche désormais 5 provinces à savoir Maïndombe, Kwango, Kwilu, Congo central et Kinshasa.
En Ituri, la MONUSCO intensifie ses efforts de protection de populations civiles. Depuis dimanche dernier, des casquets bleus indonésiens sont déployés à Tchabi, à une centaine de kilomètres de Bunia, où une cinquantaine de civils vulnérables bénéficient de leur présence face aux menaces d'attaques de rebelles ADF. La mission a également renforcé ses opérations dans d'autres localités du territoire du Rumu, notamment à Komanda, en étroite collaboration avec le FARDC. Le major Ahmed Bouhia, chargé de l'information publique au sein de la force de la MONUSCO, explique au micro des Martial Papi Moukeba.
À la suite des rumeurs d'attaques des rebelles ADF dans la région de Tchabi, la MONUSCO a déployé ses casques bleus indonésiens pour protéger les populations locales. Depuis dimanche 24 août 2025, il assure la sécurité d'une cinquantaine de civils, dont 47 enfants et 3 femmes, à travers des patrouilles renforcées de jour comme de nuit. Cette présence continue à rassurer les habitants et à prévenir toute menace. Par ailleurs, à Komanda, dans le territoire de Romo, la MONUSCO a intensifié ses opérations et a renforcé sa présence sur le terrain. La brigade d'intervention de la force a été déployée afin d'assurer la protection des populations locales et de traquer les groupes armés responsables d'exactions. Des patrouilles renforcées ainsi que des actions conjointes avec les forces congolaises sont menées pour garantir la sécurité des communautés. La MONUSCO rappelle également l'importance de programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion, réhabilitation et réintégration et encourage tous les groupes armés à déposer les armes et à rejoindre ce programme afin de construire un avenir plus sûr et pacifique pour les communautés.
Nous parlons du dossier des réfugiés congolais vivant au Rwanda. Retour de réfugiés congolais en provenance du Rwanda. La question préoccupe vivement les chefs coutumiers et notables du Grand Kivu. Ces derniers se sont exprimés ce week-end à Kinshasa à l'issue d'une rencontre consacrée à l'analyse de l'évolution du processus de paix conjoint de Doha et Washington. Ces autorités coutumières, dont la plupart des entités sont actuellement occupées par l'AFC-M23 au nord et au site Kivu, exigent leur implication dans tout processus de rapatriement de réfugiés, notamment à travers la restauration de l'autorité de l'État dans les zones concernées. Sifa Maguru.
Profitant du passage du haut commissaire du HCR, Philippe Ograndi, en RDC, spécialement à Goma, pour s'enquérir de cette question, les chefs coutumiers du Grand Kivu expriment leur vive préoccupation par rapport au rapatriement imminent des réfugiés congolais en provenance du Rwanda. Ces responsables coutumiers s'inquiètent de l'identification de ces populations et d'où viennent-elles pour être injectées dans leur territoire, tel que le déclare ici le Mwami Christian Longangé de la chefferie de Wamuzimu à Mwenga au sud Kivu.
La plus grande partie des populations est dispersée. Nous les chefs, nous sommes à l'écart. Maintenant nous constatons que quand on va insérer ces populations-là, il y aura une autre population qui va s'installer sur nos terres. Ça sera comme une implantation d'une autre communauté dans des terres qui ne sont pas siennes. Ça risque de créer des révoltes et des tensions. C'est pourquoi nous tirons sur la sonnette d'alarme, alerter notamment les ACR, les hauts commissariats des réfugiés, qui ne doivent pas transporter cette population-là du Rwanda vers le Congo sans pour autant que nous, chefs authentiques, puissions les reconnaître.
Pour sa part, le porte-parole de la notabilité et communauté du Grand Kivu, Joseph Nkinzo, a réitéré le souhait des chefs coutumiers, notamment l'arrêt des hostilités et le rétablissement urgent de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire occupé.
Les États bénéficiaires de fonds fiduciaires ont renouvelé vendredi leur engagement en faveur de la conservation de la nature. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la clôture de la 15e Assemblée annuelle du Consortium des fonds africains pour l'environnement, CAFE, tenue à Kinshasa. Reportage de Blaise Ndongala rendu par Grace Amzati.
C'est sur le majestueux fleuve Congo, symbole d'unité, que se sont achevés ces travaux organisés par le fonds Okapi pour la conservation de la nature. La randonnée est une tradition respectée par cette plateforme qui choisit toujours, en marge des assises, un site de conservation de la biodiversité à découvrir. À bord du bateau majestique Riva, profitant de l'air frais, les différents participants ont procédé à la signature de la déclaration de Kinshasa, mettant en lumière diverses thématiques liées à la conservation et aux finances climatiques. Pour le président du fonds Okapi pour la RDC, Victor Kabengele, cette assemblée a accompli sa mission. raviver la flamme des pays africains pour la conservation des aires protégées et l'évaluation de leur impact sur les populations locales. De son côté, le directeur exécutif des parcs et réserves de la Côte d'Ivoire a salué le café de Kinshasa qui a permis de renforcer les liens en vue d'une mobilisation collective autour des financements pérennes pour la protection de la biodiversité avec à la clé la promotion des pratiques innovantes. Cette activité coïncide avec la célébration du centenaire du parc national des Virunga situé dans la partie est de la RDC qui abrite une biodiversité exceptionnelle et jouit d'une renommée internationale.
Actualité internationale.
Parlons de l'actualité internationale dans cette session où nous rendons au Kenya, où 32 corps ont été exhumés dans le sud-est de ces pays la semaine dernière, dans une tragédie qui suscite de nouvelles critiques à l'encontre des autorités qui avaient promis de réprimer les sectes extrémistes après la mort des centaines de membres d'une secte apocalyptique il y a de cela 2 ans. Le gouvernement kenyan et les résidents locaux ont lié les corps de couvert dans le village des Kwabinzaro à la même secte chrétienne accusée de la mort de plus de 400 personnes dans la forêt voisine des Chakahola en 2023. Sept autres corps ont été récupérés jeudi, pourtant entraîner donc le nombre total de personnes depuis le début des exhumations la semaine dernière dans cette zone reculée et boisée, a déclaré aux journalistes le paléontologiste du gouvernement Richard Njoroge.
L'invité.
Les conflits liés aux limites du parc national de Virunga, la performance judiciaire dans les traitements des contentieux climatiques ainsi que la protection de la biodiversité dans le paysage du dit parc étaient au centre d'une séance de réflexion vendredi dans la ville de Beni. Cette activité s'inscrit dans le cadre des mécanismes visant à réduire les violences autour de ces patrimoines mondiaux afin qu'ils contribuent au développement des communautés. Pour en parler, nous recevons comme invité le secrétaire administratif de l'Alerte congolaise pour l'environnement et les droits humains, Maître Olivier Ndolé, s'entretient avec Marc Marofimbo.
Maître Olivier Ndolé, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette activité sur la performance judiciaire pour les contentieux climatiques et des sauvegardes de la biodiversité du paysage Virunga que vous venez d'organiser?
Cette activité vise à mobiliser les acteurs judiciaires. Par acteurs judiciaires, il y a les avocats, les magistrats, mais aussi les acteurs de la société civile et même les autorités coutumières qui ont un sens pour agir en fonction de la performance ou contre-performance judiciaire. On a constaté que par rapport à la question lié à la justice climatique, l'application de la loi en matière du contentieux climatique comme aussi du contentieux de la biodiversité et aussi en faisant référence à l'avis consultatif ou l'arrêt qui a été rendu sur base de l'avis consultatif par la Cour internationale de justice sur les questions climatiques, les acteurs judiciaires ont un rôle à jouer, non seulement pour l'implémentation de cette jurisprudence, mais aussi par rapport à la sauvegarde sociale, mais aussi la question de la traduction de tous ces éléments qui constitue un frein par rapport à la question d'une réponse judiciaire et légale climatique dans la vie non seulement des communautés mais aussi au niveau de la biodiversité.
Lors de cette activité, vous avez parlé aussi de l'arrêt de la Cour internationale de justice sur le climat. Peut-on savoir quel en est le contenu pour la protection de la biodiversité?
Oui, comme vous le savez, l'arrêt de la Cour a précisé un certain nombre d'éléments. On a créé les liens juridiques et sociaux qui existent entre les droits humains et le climat. Il y a la question, par exemple, à la responsabilité des États sur la question de la résilience climatique, mais également la protection de la biodiversité, la participation des communautés locales, l'accès à l'information d'intérêt public, la participation citoyenne, mais aussi la résilience des communautés. Et par rapport à cela, quand nous voyons, par exemple, le contexte du parc national de Virunga, où il y a de plus en plus une déforestation qui dévore sa forêt, des trafics illicites de la faune et flore sauvage, mais aussi une carbonisation qui, en quelque sorte, remet même en cause l'existence du parc. Nous avons estimé qu'il était non seulement important ce qui est ce dialogue-là, cette discussion pour trouver des recommandations, mais également l'importance de la performance judiciaire sur cet aspect reste quelque chose en termes de panacée pour aussi trouver une réponse, non seulement par rapport à la question en termes judiciaires, mais aussi une question par rapport même à la sauvegarde sociale, mais aussi la stabilité, étant donné que toutes ces questions en termes d'investissement illégaux ne fait qu'accroître la capacité des forces et groupes armés en termes d'accès aux ressources, avec pour conséquence peser et anéantir l'autorité de l'État. Et donc la justice devra voir comment lutter contre la corruption et prendre cette question au centre de la politique judiciaire congolaise comme une question non seulement de stabilité, mais aussi une question en termes de sécurité climatique au niveau de l'échelle globale, mais aussi de sauvegarde de ces plus vieux parcs d'Afrique, parcs qui constituent le berceau du métier de conservation dans le monde. Parce que le rôle de la justice ne vise pas seulement à réprimer, mais ça vise aussi à éduquer et aussi à donner des avis qui vont jouer en termes de performance, de sauvegarde, mais aussi en termes d'accès à l'information d'intérêt public.
Pendant ces temps, les menaces pèsent toujours sur les parcs nationaux de Virunga, les conflits de limites avec ses riverains ne cessent de s'enregistrer. Que proposent les participants à cette séance de travail sur cette situation qui a déjà fait couler un tas d'encre?
Je pense que par rapport aux limites, comme vous le savez, il y a les limites légales qui existent. La prise en compte de ces limites dépendra d'un débat beaucoup plus démocratique et de la participation de cette communauté. Parce que, comme vous le savez, l'approche de la conservation communautaire et aussi la participation des communautés dans les questions de réponse sur les questions de justice climatique voudrait inviter même les autorités au niveau de la conservation, les autorités judiciaires, les chefs coutumiers à engager beaucoup plus un débat pour que cette performance judiciaire puisse être une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des débats qui sont déjà engagés avec les autorités et même les parcs. Une fois cette communauté a accès à l'information d'intérêt public, nous n'aurons pas tellement de tensions entre les parcs et les communautés. Ça sera un pacte de responsabilité entre les communautés et les gestionnaires du parc pour protéger la biodiversité qui nous sert de réponse pour notre sauvegarde sociale, mais aussi pour la sécurité climatique, mais aussi la création des emplois écologique et aussi l'accès aux énergies durables qui sera donc le moteur pour le développement.
Maître Olivier Ndolé, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'est à nous de vous remercier d'avoir suivi cette édition du journal.